J'espère que vous me dites hein, s'il y a des problèmes de micro, de son et autres. C'est le forum de la fraction trotskiste 4e internationale qui est consacré à Syriza, Podemos et les révolutionnaires. Alors c'est un privilège dans un sens que d'ouvrir la valse des discussions, puisque vous avez vu au niveau des panneaux des forums que c'est des débats qui vont vertébrer, en tout cas qui vont polariser les discussions pendant les 3 jours. C'est des discussions qui sont cruciales pour les révolutionnaires, importantes pour l'extrême gauche, et vis-à-vis desquelles les différents groupes qui sont présents ici ont des positions définies, parfois contrastées, parfois opposées, mais en tout cas qui sont nécessaires de discuter pour justement considérer un peu à la fois l'actualité et la prégnance des débats actuels qui parcourent pas simplement la Grèce et l'État espagnol, mais également l'ensemble de l'extrême gauche européenne, dans la mesure où sans forcer pour autant le trait, c'est très certainement une des premières fois depuis la révolution des œillets, depuis 74-75, que la discussion réforme, révolution, la question du gouvernement, mais en lien avec la lutte de classe et avec l'actualité sociale, est reproposée au niveau des, disons, non simplement des petits groupes d'extrême gauche ou des courants un peu plus importants, mais également au sein de notre milieu, au sein de l'avant-garde ouvrière et de la jeunesse. Alors ce qui se passe aujourd'hui en Grèce et dans l'État espagnol, c'est pas simplement des débats qui sont liés à des cadres nationaux précis, mais c'est également et avant tout l'expression d'une crise économique internationale et de ses répercussions européennes. Et je vous passerai donc les chiffres sur les taux de chômage absolument cauchemardesques de la jeunesse de l'État espagnol ou en Grèce, les familles dans la pauvreté, les pathologies qui reviennent alors qu'on pensait qu'elles étaient absolument, elles avaient été abolies en tout cas en Europe ces 50 dernières années. C'est également l'expression, ce qui se passe en Grèce, dans l'État espagnol, l'expression d'une crise des médiations politiques traditionnelles et qui ne sont pas simplement donc, liées au PASOK et à la nouvelle démocratie qui règne en Grèce depuis la chute des colonels ou à la crise du bipartisme entre Parti socialiste obrier espagnol et Parti populaire. Mais c'est aussi l'expression, et c'est en ça que le débat est essentiel, c'est la première fois que des formations, des courants anti-austéritaires arrivent au pouvoir ou pourraient arriver au pouvoir, même si aujourd'hui, dans le cadre des sondages en vue des élections autonomiques et municipales de demain dans l'État espagnol, Syriza est plutôt en perte de vitesse et passerait de première à troisième formation en termes d'intention de vote. Et encore, pour finir, dans le cas grec, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre qu'une formation politique qui a au moins partie liée au mouvement communiste arrive au pouvoir. Tous les cris d'orfraie des classes dominantes, mais également un enjeu essentiel pour l'extrême gauche et la gauche radicale tout en général. Mais c'est aussi donc des partis qui ont été portés par des mobilisations extrêmement intenses. Et je pense qu'on a tous été, on a tous suivi avec une certaine passion les débrayages, les journées d'action de 24, 48, 72 heures en Grèce, notamment en 2011-2012, le mouvement des indignés, les luttes sociales en Espagne, les luttes contre les expulsions. Et donc des mouvements qui ont porté et qui portent encore aujourd'hui ces formations, mais des formations qui ne coïncident pas obligatoirement, en tout cas c'est là un des enjeux du débat, avec la poursuite de ces mobilisations, ou en tout cas leur multiplication et leur intensification. Et le débat ici aujourd'hui, donc par delà les ambitions bassement électorales que peuvent avoir certains, notamment dans le front gauche, qui lorgnent donc du côté des scores grecs ou espagnols, et qui rêvent à des scores à 2 chiffres, voire plus, l'enjeu ici c'est pas de distribuer des mauvais mouvements réformistes ou encore de faire la liste des trahisons passées et à venir, puisque réformistes, à la fois dans le cas de Tsipras ou dans le cas de Iglesias, ils disent qu'ils sont réformistes fondamentalement. Et je passe sur la rhétorique de Podemos sur en haut, en bas, les gens, la caste. Je passe encore sur, vous avez tous en tête, je pense qu'on a tous suivi l'intervention de Tsipras à la suite des résultats le 25 janvier, dans lequel le discours, à part une mention de l'oligarchie, était un discours absolument vide, plutôt un discours extrêmement significatif quant à ce qu'il allait effectivement mettre en œuvre par la suite. La question aujourd'hui, c'est de, et pour ce qui est des trahisons, elles sont multiples, des trahisons, des reculades, des compromissions. Et il suffit d'avoir en tête l'alliance contre nature, mais là aussi qui n'est pas si contre nature que ça, à la fois de toute face avec les Grecs indépendants, une formation chauvine, xénophobe, homophobe, ou encore avec déjà les gages de bonne conduite hein, que s'apprête à, non pas s'apprête à donner, qu'a déjà donné Podemos et Iglesias par rapport à la monarchie, par rapport aux forces armées espagnoles, par rapport à Madrid et à la question nationale, ou encore y compris par rapport à la finance ou à la bonne finance et au bon capitalisme. La question aujourd'hui, c'est de savoir si justement ces formations-là sont des vecteurs de mobilisation, sont des vecteurs de mobilisation dans le cadre d'un certain reflux des mouvements tels qu'on a pu les voir, notamment à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Et si les gouvernements Syriza et un éventuel gouvernement de coalition qui serait mené par Podemos sont des appuis pour relancer à la fois la conduite de l'ouvrière et l'initiative du monde du travail. Et on est encore une fois dans le plaisir, dans cette idée politique, à avoir des positions, encore une fois, qui sont parfois divergentes, à pas compasser, et c'est des enjeux qui sont centraux, à la fois pour discuter des perspectives au niveau européen, et y compris pour discuter au niveau donc, de notre milieu, au niveau de l'avant-garde, au niveau du monde du travail et de la jeunesse. Alors pour ce qui est de la Grèce, c'est un pays qui a été extrêmement, en fait c'est une focale qui est extrêmement intéressante pour analyser la situation. D'abord parce que c'est un laboratoire, et c'est plus simplement un laboratoire pour la bourgeoisie, c'est plus simplement un laboratoire des réformes économiques qui ont été appliquées, mais vraiment un cadre à travers lequel on peut apprendre, à travers lequel on peut analyser les mobilisations qui ont eu lieu et leur traduction. C'est avant tout donc le fruit dans le cadre de la poussée électorale de Syriza. Le fruit exceptionnel du succès des mobilisations entre la fin des années 2000 et notamment 2011-2012, c'est l'expression donc de cette mobilisation, mais en même temps une certaine absence de perspective, une certaine usure, donc des journées de grève générale qui ont été menées. Et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité centrale qui a été liée à mettre sur le compte donc les directions syndicales de l'ANELI et de l'ISU, les principales fédérations syndicales grecques, mais également du Parti communiste, du Koué, ça a tendance syndicale le PAMÉ, dans la mesure où cette absence, cette espèce de déni et ce reflux, disons, a porté le mouvement social, a porté le monde du travail, a identifié dans une espèce de délégation verticale, dans les urnes, dans les élections et dans Syriza, ce que l'horizontalité des luttes n'avait pas réussi justement à imposer, n'avait pas réussi à arracher pour mettre fin au moins au cauchemar austéritaire que vit la Grèce, en tout cas que vit la Grèce de façon paradigmatique par rapport à d'autres pays d'Europe. Mais la contradiction fondamentale, c'est que ce vote Syriza, comme y compris une bonne partie de l'électorat Podemos, n'est pas là pour exprimer une volonté de compromis, n'est pas là pour exprimer une sorte de compromission, mais pour mettre un terme en tout cas à ce qui est subi par les peuples d'Espagne, le peuple grec depuis maintenant plusieurs années. Hein. Et la question, c'est que dans ce cadre-là, de façon extrêmement exemplaire, on est assisté en tout cas à une translation sur la droite extrêmement rapide du gouvernement Syriza à Nel, avec l'énième reproposition, donc non seulement d'un gouvernement réformiste, sans marge de manœuvre réformiste, mais y compris d'un gouvernement qui a voulu et qui, qui entend poursuivre une sorte de compromis honorable, pour reprendre les termes de Tsipras, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de compromis, où il y a compromission, où il y a rupture. Et pour ce qui est de gagner du temps, parce que c'est une des anciennes de Tsipras, pour ce qui est de gagner du temps, fondamentalement le temps il est extrêmement précieux, puisque ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de savoir si face aux espoirs suscités en tout cas à la fois le processus grec mais également les élections, il ne peut pas y avoir un retour de bâton, une sorte de désenchantement qui sera à la hauteur effectivement des espérances qui ont été portées par ce vote Syriza, et dans un pays où les forces armées ont une tradition, on va dire, assez peu démocratique, et nous avons également pour l'Espagne, c'est assez peu rassurant, et également dans un pays dans lequel une formation fasciste ou fascisante en tout cas, qui a participé au corps de répression, à la police et à l'armée, et là encore, c'est extrêmement problématique. Mais c'est là en fait une des contradictions autour des quatre années de la situation grecque, et c'est également une des contradictions qu'on pourrait étendre dans une certaine mesure à l'Espagne, à la fois les expectatives et les espoirs qui ont été portés, la façon dont le mouvement de masse a pu cristalliser un rapport de force, et on n'a pas réussi à renverser ce rapport de force, et aujourd'hui donc la phase intermédiaire à laquelle on est confronté. Et c'est ce qui est en tout cas, c'est une des contradictions également qui permet d'expliquer son nom de façon encore fragmentaire, là y compris embryonnaire, mais des secteurs de l'avant-garde commencent réellement à discuter, et là encore une fois au-delà des cercles d'extrême gauche habituels, commencent à discuter réforme et révolution, commencent à discuter dans la pratique le rapport à ce qui est leur gouvernement, dernière instance, c'est tout ce que Tsipras continue à bénéficier d'un taux de popularité extrêmement important. Et on songera de ce point de vue-là, la caravane qui a été emmenée par les travailleurs de Biomé, pas simplement, dans l'usine de Thessalie, donc dans le nord de la Grèce de Thessalie, qui est sous le calendrier, une petite PME, qui avait reçu donc, la visite du secrétaire général de Syriza avant les élections, qui leur avait là aussi donc, promis monts et merveilles, une solution, etc. Évidemment, il y a eu absolument le non-respect de la promesse. Et les travailleurs de Biomé, avec une partie de l'extrême gauche grecque, et c'est ça qui fait la différence, a réussi à transporter, disons, ce qui aurait pu être tout simplement un recul ou un reflux, en une caravane qui s'est dirigée entre Thessalonique et Athènes, et qui a emmené les travailleurs de Biomé, les enseignants, les journalistes de l'ERT, les sportifs d'Alpine, les travailleurs de Coca-Cola, et les employés du nettoiement de certains ministères, qui étaient autant de secteurs qui avaient été liés au PASOK, qui étaient liés au PAME, donc à la tendance syndicale du qui étaient liés à Syriza et qui néanmoins ont commencé à rompre et par rapport auquel donc, leur direction historique était dans l'impossibilité d'imposer, de ne pas transformer effectivement leur mouvement en une poursuite en continuité de la lutte jusqu'à Athènes, en face de la folie, en face du Parlement, pour demander des comptes et poser réellement la question justement des perspectives politiques pour le monde du travail grec. Et ça, c'est des éléments qu'on a pu également retrouver du côté espagnol, dans une moindre mesure, avec une certaine persistance des luttes, notamment contre les licenciements, qui ont eu, disons, des évolutions parfois contrastées dans le cadre de Coca-Cola de Guatemala, mais qui aujourd'hui porte en tout cas une certaine continuité des luttes, disons, par-delà la situation que connaissent les deux pays. Cette question, puisque aujourd'hui c'est encore des secteurs absolument relativement réduits, disons, du monde du travail et de la jeunesse qui est en face d'un début de rupture à la fois politique et pratique avec les gouvernements en place, avec le gouvernement en place aussi, dans le cadre des illusions qui pourraient encore exister de vos dépenses. Et ça pose fondamentalement, par rapport à ce qu'est le débat dans l'extrême gauche, la question à la fois du sujet, la question du programme et la question du gouvernement. La question du sujet, dans la mesure où il est vrai qu'il faut aussi reconnaître que si lutte il y a eu, mobilisation il y a eu tout au long de ces années, il y a une différence fondamentale entre les mobilisations à caractère populaire, les mobilisations de la jeunesse, les acampadas, ou le mouvement des places en Grèce, et les mobilisations du monde du travail, les grèves qu'il y a pu avoir, puisque là où il y a pu avoir persistance et compris un certain entêtement dans les occupations, avec donc sur place Catalogne, à Madrid, donc une sorte d'enracinement du mouvement pendant un certain temps, il y a eu un manque de continuité, et ça c'est effectivement à mettre sur le pont des bureaucraties syndicales, un manque de continuité dans les grèves, dans les débrayages qu'il y a pu avoir ces dernières années. Et c'est dans ce cadre-là, justement, c'est ça qui a donné un peu le là de la situation, avec une sorte de prégnance d'importance très importante simplement du mouvement, et avec une espèce de dilution du monde du travail, du salariat, qui néanmoins avait pu s'exprimer, qui n'a pas réussi à maintenir sur la durée un niveau de mobilisation capable justement de renverser la pression. Et l'absence justement d'un sujet autonome, d'un sujet hégémonique qui serait le monde du travail dans sa dimension la plus large, inclusive possible, c'est ce qui a permis justement à la fois dans le cadre d'une grande politisation, dans le cadre d'un réveil idéologique important notamment de la jeunesse, c'est ce qui a marqué, disons, qui a permis l'émergence d'un mouvement au démence, d'un mouvement à la fois réformiste mais aussi très petit bourgeois, dans la mesure où il n'a pas réussi, en tout cas le monde du travail n'a pas réussi à hégémoniser le devant de la scène. Et c'est ce qui explique, y compris le caractère à la fois erratique des positions de Podemos, et le caractère très brouillon, y compris de son discours, et la façon dont une partie de son électorat aujourd'hui oscille, aussi bien entre Iglesias ou Ciudadanos, Adán Rivas, qui est donc l'un des leaders pendant de droite, on va dire de Podemos, une formation à l'origine catalane, et qui aujourd'hui elle va en coupe, et dont donc, le porte-parole est donné comme une des personnalités les plus appréciées des Espagnols, en tout cas selon les instituts de sondage. Et dans le cadre de cet espace ouvert, couvert par la politisation, mais qui n'a pas été rempli par le monde du travail, il y a eu effectivement l'émergence d'un autre sujet, en l'absence donc, d'un sujet ouvrier défini, caractérisé, qui a été d'abord, donc, d'un côté, dans le cas de l'État espagnol, l'état-major de Podemos, donc les gens qui gravitent autour de Iglesias, et tout simplement le cercle restreint de collaborateurs de Tsipras, qui s'est y compris distancié de l'appareil politique de Syriza. Donc, pour ce qui est aujourd'hui, après donc, de la question des gouvernements, donc face à l'expérience, en tout cas Syriza, et les premières mesures qui ont été prises, et notamment donc, le va-et-vient, les allers-retours, plus ou moins folkloriques et théâtraux entre Athènes et Berlin, notamment sur les questions de mémorandum. Aujourd'hui, toute la discussion consiste aussi à savoir, à réfléchir sur la question d'un gouvernement de Tsipras qui pourrait être un allié, qui pourrait être un point d'appui, qui serait y compris une sorte de gouvernement en dispute, libre aux révolutionnaires, libre au monde du travail, par sa pression exercée sur ce gouvernement, justement de le pousser au-delà de ce qu'il pourrait aujourd'hui souhaiter. Alors c'est un vieux débat, et c'est un débat y compris qui avait été remis à l'ordre du jour en 2002 après l'élection de Lula au Brésil. Un gouvernement qui a été appuyé, voire même intégré pour partie par l'extrême gauche, et qui donc est lié à ce raisonnement qui est plus ou moins lié, articulé autour du pouvoir de transition, selon lequel les gouvernements petits bourgeois réformistes, dans des cadres bien précis, sous la pression de la crise et du mouvement de masse, pourraient prendre des mesures et aller au-delà de leur propre intention. Aujourd'hui, ce à quoi on a faire face en Grèce, c'est l'exact contraire. C'est au contraire un gouvernement qui essaye à tout prix de congeler la montée ouvrière qu'il a pu avoir, qui contribue à cultiver la démobilisation, y compris par ses relais syndicaux, et qui fait tout justement pour que ces expériences d'avant-garde qu'on a pu voir à différentes échelles en Grèce ne trouvent pas de cadre de coordination ou soit le plus isolé possible. Avec donc, c'est un peu ce qu'on a pu voir, y compris de façon inquiétante, lors du 1er mai à la fois à Athènes et en province, avec une mobilisation qui était bien en deçà de ce à quoi les 1er mai grecs, en général, pouvaient nous habituer. La différence néanmoins, par rapport, pour reprendre la question du gouvernement en dispute, est-ce qu'on est face aujourd'hui à une sorte d'hypothèse nulliste reloaded ou reproposée, c'est que le cadre objectif est absolument différent par rapport à 2002. On est dans une phase économique qu'on distingue bien entendu. Par-delà les reprises ou prémissements que pourraient voir les Rajoy ou les Valls de l'économie, et les perspectives sont extrêmement sombres pour la bourgeoisie. De même que les temps sociaux et l'expérience qui est accumulée est absolument différente. Et ça, c'est deux éléments dont les analystes de la bourgeoisie tiennent compte au moment où ils pensent à la possibilité ou à l'ambition possible d'une reprise de l'initiative ouvrière et d'accomplir les ouvrières en Europe du Sud, et y compris au-delà. D'où, à notre avis, la nécessité de faire clarté. Alors non pas par souci d'ultimatum ou de dogmatisme, sous prétexte du fait qu'entre la dictature, il y aurait ou la dictature du prolétariat ou rien, bien entendu, mais tout simplement parce que, et ça c'est un discours qui est porté par une partie de l'extrême gauche, y compris par la gauche radicale stalinienne grecque, et qui contribue à cultiver les divisions au sein du mouvement, qui serait reporté par une sorte d'extrême gauche abstentionniste, qui refuse d'analyser la situation dans l'ensemble de son contexte et de ses différentes dynamiques, tout simplement en attendant un moment où il y aurait donc une fameuse retour de la classe ouvrière sur les rangs de la scène. Mais c'est il faut faire clarté parce que aujourd'hui c'est compris, je pense qu'on est ici convaincu, c'est dans notre propre milieu, au sein des secteurs de salariés et de la jeunesse, que se discutent les principales questions qui sont posées en Grèce. Sur la question tout d'abord de la dette, est-ce qu'il faut refuser de payer la la dette. Tout simplement, prenez un audit partiel. Est-ce que fondamentalement la question c'est la finance, ou la mettre hors d'état de nuire? La seule façon de la mettre hors d'état de nuire, ce serait effectivement en nationalisant le système bancaire sous contrôle des travailleurs et sous contrôle des usagers. Est-ce que la question c'est un mauvais capitalisme qui serait tout simplement là aussi exproprier les grands groupes, les secteurs stratégiques de l'économie pour empêcher les licenciements? Et donc de ce point de vue-là, créer les conditions d'une reprise de cette industrielle du coup défensive. Est-ce que justement face à la casse, face aux politiciens qui sont effectivement tous pourris, l'enjeu, ce n'est pas fondamentalement l'organisation ou l'auto-organisation, mais en toute indépendance des partis réformistes qui ont eu partie liée en tout cas aux partis du régime, que ce soit du centre-gauche ou du centre, et qui veulent aujourd'hui substituer par des gouvernements qui seraient vraiment réformistes ou vraiment sociodémocrates, ce que Valls ou d'autres ne feraient pas. Et c'est là en fait fondamentalement discuter la question de le seul gouvernement de rupture qui soit serait un gouvernement du monde du travail, un gouvernement des classes populaires mobilisées, capable de prendre ses premières mesures, des mesures essentielles aujourd'hui face à un continent qui est économiquement à la dérive, qui est politiquement dans une impasse avec l'extrême droite à l'offensive. Donc c'est en tout cas des leçons qui nous semblent importantes à tirer à la fois de ce qui se passe en Grèce, des leçons qui sont importantes à tirer en fonction des prochains mois et de l'évolution de la situation dans l'État espagnol, non seulement en vue des élections de demain, mais également des élections au niveau national qui vont avoir lieu cet automne, mais également pour la France, face à un gouvernement qui est toujours aussi en difficulté et qui reste à l'offensive, voire qui redouble l'offensive. Et ça, on a pu voir avec Macron, avec Rebsamen, y compris la question de la réforme dans l'éducation nationale, avec une droite qui est en parfait démandade, une extrême droite qui est à l'affût, mais dans lequel le monde du travail n'est absolument pas, même s'il a pu aujourd'hui subir un certain nombre de coups, n'a pas été défait, n'a pas renoncé à la possibilité de se battre. Et aujourd'hui, pour que l'extrême gauche soit en tout cas à la hauteur de la situation, à la fois dans les mobilisations et d'un point de vue politique, c'est des conclusions, c'est des leçons qu'il faut tirer à la fois de l'exemple grec et de l'État espagnol, de façon à être à même de répondre aux enjeux et de façon à proposer une extrême gauche révolutionnaire qui soit capable de répondre à l'ensemble de ces questions qui aujourd'hui sont posées au sein de notre milieu, mais qui, aujourd'hui, après avoir une prégnance, y compris au-delà des cercles qu'on peut influencer. Merci. Donc, on peut ouvrir un premier débat avec une série de questions. Ce que je propose aux camarades, c'est de descendre. Il faut se placer derrière le mégaphone. On a une bonne demi-heure. C'est également de se présenter et de faire des interventions, on va dire, relativement courtes, de façon à permettre à l'ensemble des camarades présents de s'exprimer et qu'après on puisse entamer un échange.
Ça pose la si tu arrives au pouvoir par le système, c'est-à-dire par les élections, tu es pris dans le système. Et toute la difficulté est là. Alors après, historiquement, on a connu des situations similaires. Moi, je viens de Chili, d'Amérique latine, on a eu ce problème-là. Le camarade président Allende a été élu par des élections, démocratiquement, bourgeoisement, démocratiquement, hein, par des institutions démocratiques bourgeoises. Et une fois que tu prends le pouvoir et tu veux engager un processus révolutionnaire, comment tu fais ? Ta question est là. Alors, les camarades de projet ont été capables de le poser d'emblée dès le départ. C'est-à-dire que, dès le départ, poser la question de la participation directe et de la démocratie directe et participative. C'est ça le projet Podemos. Et en France, si on veut avancer aujourd'hui, c'est une des questions qui se posent. C'est-à-dire que tant qu'on continue à répéter des schémas qui ne correspondent plus à la réalité sociale, qu'entre nous on comprend, puisque nous on a tous à peu près la même culture politique. Donc entre nous on se comprend, mais en dehors de nous, la société, les nouvelles générations, il y a des choses qui ne comprennent pas. Comment on fait pour mobiliser le peuple aujourd'hui en France ? Eh bien, il faut qu'on soit capable de repenser le système politique. Il faut qu'on soit capable de repenser une démocratie participative, une démocratie directe. Voilà. Merci.
Là, ça va bien, là. C'est le gouvernement solidaire, donc nous le disons, il est clair pour les marxistes que c'est un gouvernement capitaliste. C'est pour ça qu'ils ont dit que nous disons dans le dernier journal, solidaire, ennemi des travailleurs, ennemi de classe, des travailleurs et des ouvriers. Et contrairement à presque toute la gauche, également ici en France, nous avons amené à ne donner aucune voix à Syriza et à voter pour le Parti communiste. Alors, Syriza n'est pas un parti réformiste, c'est pas un parti basé sur la classe ouvrière ou sur les classes sociales. Syriza, c'est un parti bourgeois dont le problème est en train de. Ça n'existe pas, la société grecque est divisée en place, la culture raciste. Notre vote pour le KKE est un parti réformiste. C'est un vote indépendant, c'est la France à la bourgeoisie. Votre groupe, la fraction socialiste, est plus que le KKE, soi-disant sectarisme, le KKE. Au contraire, c'est une raison pour laquelle nous avons été opposés à ce résultat et à ce qui est entré dans le gouvernement. C'est une bonne chose, les gens, en culture solidaire, en contradiction avec leur travail, la musique du patinette de la culture populaire. Là, on va jeter le fond de le caca rejette aussi l'Union européenne, parce que l'euro, l'instrument monétaire impérialiste européen pour imposer l'austérité à leur classe ouvrière et aux classes ouvrières des pays dépendants comme la Grèce, le Portugal. Nous disons à bas l'Union européenne, à bas l'euro. La gauche française, les réformistes sont contre l'Union européenne, simplement il faut qu'elle soit un peu plus sociale. Et il y a pour vous la fraction socialiste qui a aussi critiqué le caca pour la question de l'Union européenne. Une question qui n'a pas été félicitée, c'est des familles qui se dorées. Avec Syriza, les gouvernements syriens qui vont inévitablement se renforcer. Pour des actions de conduite, une attaque politique également contre le KKE, qui refuse de lever le petit doigt contre les fascistes qui attaquent également, bien sûr les citoyens, mais également les propres militants du KKE. Et aussi pour un fonds de vie pour balayer les fascistes des rues.
Sur un truc là, sur Podemos que tu parlais. Moi c'est Ben, je suis militant. Pour revenir sur Podemos avec la question de prendre le pouvoir, mais j'ai envie de dire tous les programmes politiques, tous les partis politiques, et un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. En fait, c'est ça un peu le truc. Ce qu'il y a, c'est Podemos, ça veut faire, enfin, j'ai pas bien compris en fait son intervention, mais la grosse différence qu'il y a avec l'INDE au Chili, c'est que le programme déjà, la situation n'a rien à voir, le programme n'a rien à voir, il est beaucoup moins révolutionnaire, c'est clair. Surtout, en fait, il risque de faire la même erreur en fait, qu'Allende en refusant d'armer la population, que ce soit même de manière idéologique, mais même au niveau armé, j'ai envie de dire, clairement, si jamais il y a l'extrême droite, l'armée, et ce genre de choses qui arrivent. Podemos, c'est aussi un fonctionnement interne qui est assez peu démocratique et ultra bureaucratique, qui est des bagarres internes contre toutes les factions, toutes les organisations politiques qui essayent de se mettre en place, et qui se relaient même par d'autres organisations. Là, il y a eu l'un des cofondateurs de Podemos, qui s'appelait Esquerda Anticapitalista, qui était un parti politique qui a dû se dissoudre en association, et dans cette propre association, ils ont exclu de manière ultra antidémocratique, encore une fois, ils ont exclu des membres qui osaient poser la question de monter dans les boîtes, d'avoir un discours clairement révolutionnaire, de ce genre de choses. Et donc, ils ont été exclus. Ils ont été exclus dans ce monde-là. Et puis, ensuite, on fait un autre chose, moi, sur la base, le truc. La façon dont j'avais l'habitude d'expliquer le truc, c'était que Syriza au pouvoir, c'est une bonne chose parce que ça permet de développer une situation. C'est la première chose. Mais après, il y a en embuscade, il y avait trois scénarios en réalité. Soit un effet juin 36, c'est-à-dire un gouvernement de gauche qui se trouve à gérer un état qui arrive au pouvoir, ou bref, les travailleurs, chiche, on fait des facilités, on a un peu forcément confiance en vous. Donc soit une remobilisation avec l'autorisation d'autres organisations qui sont à gauche, notamment les médias et qui sont derrière. Soit c'est une situation genre,
avec les camarades et notamment par rapport à la pétition, etc. On n'a jamais pensé
que l'armée rouge a libéré le peuple, et encore moins en soutenant les Chicoulas. De façon un peu plus, à mon avis, politique et intéressante par rapport à ce qu'a dit le camarade chilien et ce qu'a dit le camarade de Lille juste après, la question est effectivement le cadre de la façon dont le gouvernement de 78 dans l'État espagnol, y compris le gouvernement qui est issu de la chute des classes décoloniales en Grèce, aujourd'hui est en train de prendre trop de pouvoir et néanmoins continue à, disons, à résister tant bien que mal en dépit des coups de pouvoir, des privatisations, etc., etc. C'est une chose. La question, c'est de savoir si Podemos et Syriza sont des instruments qui seraient capables justement de renverser la table. Le problème de la preuve du pouvoir populaire, y compris par rapport à un peu le cas d'école chilien, etc., c'est entre, en dernière instance, entre les cordons industriels et l'armée, il n'y a pas de point intermédiaire. Que le gouvernement, fondamentalement, où il est d'un côté ou les autres, où il est avec les marins de Talcahuano, où il est avec l'état-major de la défense armée chilienne. Et c'est pareil dans le cas espagnol. Dans le cas de l'Iglesias, il a déjà effectivement, alors pouvoir populaire peut-être, encore il faudrait peut-être débattre entre les différences entre démocratie participative et démocratie directe. Mais dans le cas d'Iglesias, par rapport à la monarchie, il a déjà commencé à dire effectivement bon, la République peut-être, mais bon quand même le droit c'est sympa. Parce que par rapport aux carabiniers espagnols, ceux-là même qui ont organisé les cas des groupes de libération, qui ont assassiné les militants basques, les catalans et du Grapo dans les années 80, effectivement, il y avait quand même des bons gars. Et que peut-être qu'on pourrait quand même leur faire confiance, parce qu'en dernière instance, c'était les garants du système. Et que par rapport à Madrid, et par rapport à la revendication essentielle de l'autodétermination des peuples en Galice, en Euskadi et en Catalogne, ce que dit Iglesias, c'est loin d'être le droit d'autodétermination, mais au contraire, effectivement, entamons un processus de discussion, etc. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'un gouvernement Podemos, de coalition ou non, ou est-ce qu'un gouvernement Syriza sont des instruments qui permettent de dynamiser, y compris de dynamiquer le système? Fondamentalement, aujourd'hui, c'est des instruments qui bloquent, qui gênent les mobilisations et en tout cas leur développement par rapport à ce qu'on a pu voir au cours de ces derniers mois. Et ça, c'est une des questions. Et pour finir sur la question de Syriza, je ne sais pas si il faut avoir un œil du côté de Syriza et se demander si, en dernière instance, dans ces négociations avec l'Union européenne, ils vont réussir à sortir de la logique de ne pas gagner du temps et à rompre. Parce que moi, je pense que l'ensemble des accords, je pense, il y a un certain nombre d'économistes qui pensent que l'ensemble des accords entre Athènes et Berlin ont déjà été écrits. Fondamentalement, c'est une question de temps. Un peu comme si on était déjà, ils s'étaient déjà mis sur les accords sur le point de table. Et que progressivement, effectivement, de mois en mois, ils repoussent les échéances, ils font semblant de s'opposer. Tsipras va faire un tour à Moscou, en partie aussi pour porter une partie de la gauche chauvine orthodoxe grecque qui vise une alliance pan-slave, pan-orthodoxe, etc. C'est fondamentalement, s'il y a bien un instrument qui devrait permettre à la base de Syriza, qui aujourd'hui est en tout cas en attente, pour y compris en face de l'enchantement, pour continuer à avoir de l'espoir, c'est pas du côté, et ça c'est un des grands problèmes auxquels fait face la Fasanis, auxquels fait face Théa, y compris auxquels fait face Epanastasi, le courant grandiste de l'Union Syriza, c'est qu'aujourd'hui ils sont dans l'incapacité d'expliquer à leurs propres militants qu'est-ce qu'ils continuent à faire dans Syriza, et pourquoi ils sont en train de construire aujourd'hui une alternative de classe, de gauche et révolutionnaire, pour effectivement être à l'auteur de la situation. Je crois que c'est ça un peu une des de la discussion et du débat. Je vais laisser la parole aux camarades et à la excuse-moi, il y avait un camarade qui voulait compléter. Non, mais viens.
Le micro.
Caca, oui. Alors, je pense que tout le monde peut.
C'est le parti sectaire qui est aligné. Donc, du coup, tu dis que c'est le seul parti de l'extrême gauche qui est en Grèce. Il y a OK, d'accord, il y a Syriza. Il y a d'autres mouvements qui sont en Grèce. Ils ne sont pas forcément pro-Syriza, mais même pro-Stalinien.
Que toutes les forces politiques du gouvernement ne défendent pas l'alternative de rupture en mène jusqu'au bout avec le capital et l'intérêt des travailleurs, peut avoir des conséquences très sérieuses. Aujourd'hui, en fait, ni en Espagne, ni en Grèce, nous sommes plus locales sur ce sujet-là. C'est beaucoup plus proche, à mon avis, de la situation qu'il y avait au Brésil avec l'élection de Lula. Parce que, en fait, ce qui est en train de faire les Iglesias, en même temps qu'il entretient un discours, en fait, du pouvoir populaire, de la démocratie participative, etc., après, c'est très spécial. Et bien, je disais sur le fonctionnement, en fait, le fonctionnement de Podemos, c'est des gens, en fait, qui n'ont jamais allé à une réunion et qui votent par Internet. Donc, vous voyez, c'est une façon un peu plébiscitaire, c'est un peu stalinisme en plus Internet, quoi, le fonctionnement de Podemos. C'est très spécial de ce point de vue-là. Y compris maintenant tous les votes importants, en fait, Pablo Iglesias, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, il va avoir 80 ou 90%, parce que c'est la seule figure connue. C'est la partie, en fait, qui se s'organise autour, en fait, d'être une figure charismatique et très populaire, sans droit, en fait, d'organisation du courant à l'intérieur. De ce point de vue, compris moins démocratique que ce qu'il est là, d'un certain point de vue. Mais au-delà de ça, ce qui est en train de faire Pablo Iglesias, et qui a fait, en fait, à son petit face, c'est avant même leur le pouvoir, en fait, le gouvernement, donner toute une série de gages, en fait, à la bourgeoisie. Donc, c'est pas anodin, en fait, que Pablo Iglesias voit une lettre, en fait, aux principaux capitalistes du pays, en disant, dans ce pays, on a besoin, en fait, d'être riche, de soi honnête. Il y a des riches qui sont méchants, mais il y a des riches qui sont honnêtes. Donc, il va falloir, en fait, organiser, en fait, le pays avec des capitalistes gentils. C'est aller avec rencontrer le roi, et c'est là qu'on racontait Jean-Baptiste Lula, il a fait exactement la même chose, il a rencontré les principaux bourgeois du pays, il a rencontré le FMI, il s'est engagé à payer en fait l'ensemble de la dette et de ses intérêts, et après il a plongé en fait le Brésil qui était au début de la vague de le trou de l'hiver moins de au Brésil, mais c'est dans une vague de paix sociale qui a duré 10 ans. Et la mobilisation au Brésil, elle a été réprise 10 ans après contre le gouvernement de Lula. Et d'une certaine façon, de façon beaucoup plus accélérée, c'est peut-être ça qui va se passer en fait en Grèce. Et on commence à voir en fait des premiers frémissements de pression contre la politique du gouvernement de Tsipras. Et en fait, l'enjeu pour les révolutionnaires, c'est de savoir comment se trouver du bon côté. Les masses qui font l'expérience avec le gouvernement, en fait, utilisent les pendant leurs intérêts, ils ne le font pas, si on va se retrouver en fait à cautionner ces gouvernements-là.
Un des nœuds de la discussion.
Sur le pouvoir populaire, on pourrait encore en discuter à la limite, ce qu'on met derrière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, demain, la liste qui se présente à Madrid, en haut de Madrid, de Podemos, qui est menée par quelqu'un qui s'appelle Manuela Carmena, qui est une dame sympathique de 70 ans. Le seul problème, c'est que c'est une ancienne juge de la Cour suprême. Et que fondamentalement, moi je veux bien être populaire, mais je ne suis pas populaire avec les gens qui ont pour chasser les militants des Rivadasuna. Tout comme à Murcia, le candidat de Podemos, c'est un entrepreneur. Alors je sais qu'il y a l'extrême gauche française, certains ont pu se présenter dans des listes où il y avait des entrepreneurs à Montpellier. Mais fondamentalement, le pouvoir populaire, on ne peut pas le faire avec un capitaliste. C'est populaire ou c'est pas populaire. Et la classe ouvrière en tant que telle, c'est pas la classe ouvrière en bleu de travail qui va turbiner et qui va raboter un morceau de métal le matin à 4h. C'est la classe ouvrière dans son acception la plus large, évidemment, telle qu'elle a pu se mobiliser dans les acampadas, sur les places, dans les quêtes générales, dans les maléas. La question c'est de savoir qui est-ce qui va donner la tonique de cette dynamique-là. Qui est-ce qui va être en capacité de donner de la mobilisation et de mener en tout cas le rapport de force, y compris de mener la force jusqu'au bout. Et donc, pour finir, la question de savoir comment est-ce qu'on peut continuer, comment on peut s'armer, non pas pour gagner des gens au communisme, je pense, mais pour donner des armes à des travailleurs qui sont en train de se mobiliser, comme le cas des camarades qui sont dans les caravanes des Salonique-Athènes, pour commencer à s'organiser contre un gouvernement qui comme le leur, mais qui n'est pas le leur, et effectivement qui est situé de l'autre côté de la barricade en dernière instance. Comment refuser la fausse alternative entre d'un côté ce qui serait une sorte de gauche et de rupture avec l'euro et une perspective internationaliste, l'Europe des travailleurs, pour renverser le capitalisme à l'échelle européenne. Et pour finir, là encore une fois, entre un gouvernement qui serait un gouvernement de gauche, anti-austéritaire, et le seul gouvernement qui est capable de mener les mesures, en tout cas, quelques mesures qui se mettront sur la cérémonie dans le cadre de la Syriza, les mesures d'urgence nécessaires pour sortir du gouvernement sanitaire, c'est un gouvernement des travailleurs, c'est un gouvernement du travail basé sur l'organisation de ceux qui luttent, de ceux qui travaillent et de ceux qui sont en capacité de faire tourner la société et de la faire tourner à leur propre conscience. Merci.
C'est pas notre projet, quoi. Non, non, mais même la comparaison n'a rien à voir. Je pense que